Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte. Nous sommes réunis aujourd'hui d'une part avec les enfants et les jeunes de l'éducation biblique, accompagnés de leur monitrice. Les enfants et les jeunes resteront présents pendant tout le culte, puis, suprême récompense, ils partiront déjeuner. Mais d'autre part, nous serons dans le prolongement du culte en assemblée générale, toujours un temps fort pour notre vie d'église. Les églises de la Réforme ont la chance de pouvoir voter les projets et les décisions des conseils presbytéraux qu'ils ont élus pour mener à bien l'Église dans sa vocation et sa mission. Certains verront cette Assemblée Générale comme une pure formalité administrative, mais nous pouvons y voir aussi cette Assemblée Générale comme l'expression incarnée de notre désir d'aider à la venue du royaume de Dieu dans ce monde. À celles et ceux qui sont présents dans ce temple et qui voudraient rester pour cette Assemblée Générale, même s'ils ne sont pas membres électeurs, eh bien vous êtes les bienvenus. Nous voudrions saluer spécialement nos collègues qui viennent de la région Centrale-Péronne, qui sont venus non pas tout seuls, mais accompagnés de leurs catéchumènes de Montluçon, Vichy et Clermont-Ferrand. Et je crois que pour ouvrir ce culte, merci de vous lever, qu'on vous accueille tout simplement et vous souhaiter la bienvenue. Donc Benjamin, et on est très content que vous soyez avec nous et que vous ayez choisi ce dimanche pour nous rejoindre. Et à celles et ceux qui sont derrière leur écran pour suivre ce culte, eh bien nous nous unissons ensemble à ce temps de prière et de chant. Prions. Éternel Dieu de la vie, nous sommes rassemblés pour ce temps de culte et cette journée de rencontre et de partage. Permets que nous soyons, avec la diversité qui nous caractérise, une communauté de prière et de joie. Que chacun, chacune ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde, et que notre foi fasse grandir notre amour pour notre prochain. Père, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous vivions ce culte, le cœur apaisé. Amen. Et nous ouvrirons ce culte par le chant, en prenant le premier répond, qui s'intitule « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Ce répond, vous le trouverez au tout début du psautier français, dans les feuillets liturgiques prévus à cet effet, et nous vous invitons à vous lever.
Nous louons le Seigneur ensemble. Nous te louons, nous te rendons grâce, ô Dieu, de nous avoir créés si différents les uns des autres. Nos visages ont toutes les couleurs et ta lumière passe sur leur variété. Nous te remercions de nous avoir donné plusieurs langages. Tu multiplies ainsi dans l'expression de l'homme la recherche de ton visage. Nous te louons, ô Dieu, car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres et de connaître la joie de la rencontre. Amen. Et nous chantons notre louange avec le psaume 25 dans les psautiers français, les strophes 1, 3 et 4. À toi, mon Dieu, mon cœur monte.
Prenez place.
Écoutons maintenant ce que Dieu désire de nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours qui viennent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Fais cela et tu vivras.
Prions ensemble à partir d'un extrait du psaume 22. Écoute ma prière. Écoute mon désarroi. Montre-toi dans mes jours de détresse. Écoute-moi quand je crie. Écoute, je t'en supplie. Mes jours finissent en fumée. Tous mes os brûlent. Mon cœur est frappé. Il se dessèche comme l'herbe. Je n'ai plus sommeil. Je suis vide, seule. C'est ma prière, ô Éternel, toute ma détresse, écoute-moi. Vois ma faiblesse, mon désarroi, écoute-moi. Écoute ma prière. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir ce pardon que nous demandons à Dieu quand nous regardons nos vies. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, nous lisons le verset 10. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit l'Éternel, et je te garde ma miséricorde.
Avec les témoins de Jésus-Christ, avec celles et ceux qui l'ont servi à travers les âges, je vous propose de vous associer à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison, et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, nous lirons aujourd'hui les versets 9 à 13. Élie entra dans une caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis restée, moi, seule, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel, passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Merci, Éternel, pour ta parole. Ta parole qui nous surprend, qui nous rejoint aujourd'hui, là où nous en sommes. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le numéro 178, qui s'intitule « Qu'aujourd'hui, toute la terre ». Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, Dieu de la vie, envoie sur chacun, chacune de nous ton esprit, afin qu'il inspire celles et ceux qui parlent, et qu'il rende attentifs et disponibles celles et ceux qui écoutent. Toi qui fais toutes choses nouvelles, ouvre nos cœurs afin que nous puissions t'accueillir pleinement et tout simplement. Amen. Amis, frères et sœurs, qu'y a-t-il de commun dans un culte qui réunit à la fois les enfants et les jeunes de l'éducation biblique et les participants à une assemblée générale? Eh bien, c'est l'annonce de l'Évangile. Pas seulement l'Évangile au sens de la rédaction des quatre Évangiles que nous trouvons du côté du Nouveau Testament, mais plutôt parce que ce mot veut dire, Évangile veut dire bonne nouvelle. Alors avec tous les jeunes de l'éducation biblique, nous continuons de découvrir aujourd'hui Jésus dans tous ses états, avec en particulier la figure du prophète Élie. Les deux dernières fois, nous avions évoqué la figure du serviteur souffrant et la figure du nouveau Moïse. Aujourd'hui, c'est donc la figure du nouvel Élie. Mais pourquoi Élie? Tout simplement parce qu'Élie, c'est un prophète. Un prophète dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, dont on ne sait pas vraiment comment il a reçu sa vocation. Et puis surtout, c'est le seul prophète qui n'est pas mort, en ce sens qu'il a disparu dans une ascension inoubliable, enlevé au ciel sur un char de feu. Alors si Élie n'est pas mort, comme on l'imagine, c'est qu'il est vivant quelque part et qu'il va revenir. Alors Élie, eh bien c'est le prophète qu'on attend. Mais personne ne sait quand il va revenir, ni comment. Et lorsque Jésus apparaît bien plus tard dans le peuple d'Israël, et que chacun écoute son enseignement et voit ses guérisons, nombreux sont ceux qui pensent que c'est Élie qui est revenu parce que Jésus fait souvent la comparaison entre ce qu'il dit et ce qu'il fait avec ce que fait et ce que a dit Élie. Et nous découvrons combien c'est difficile de savoir qui est Jésus et que c'est très délicat de le ranger dans une catégorie. Est-ce que Jésus ressemble plutôt à Moïse? Plutôt aux prophètes? Peut-être les deux. Alors il faut continuer de chercher aujourd'hui du côté du prophète Élie. Le texte nous raconte une très belle histoire, celle de la rencontre d'Élie avec Dieu. Pourtant, Élie savait qui était Dieu. Il savait qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Parce que juste avant le récit que nous avons lu, il y a eu un concours de force entre le dieu Baal et le dieu d'Israël pour savoir qui serait le meilleur. Le peuple d'Israël avait beaucoup de peine à croire en un dieu qu'on ne pouvait pas représenter. Alors de temps en temps, il s'éloignait du dieu d'Israël. C'est pourquoi Élie organise un combat divin entre les deux dieux, si j'ose dire, Baal, le dieu de l'orage, et l'Éternel, Dieu d'Israël, Dieu de la vie. Et le Dieu d'Israël, défendu par le prophète Élie, gagne le combat. Ainsi, Élie démontre victorieux la toute-puissance de son Dieu. Mais ce combat divin, gagné par l'Éternel, Dieu d'Israël, n'engendre qu'une augmentation de violence qui rend Élie particulièrement malheureux. Alors, Élie s'en va. Il part au mont Horeb, à l'endroit même où Dieu s'était montré à Moïse autrefois dans le buisson ardent. Il est fatigué, il ne sait plus quelle est sa mission, il est totalement découragé, il ne perçoit plus la présence de Dieu comme avant. Il s'isole dans une caverne, la même où Moïse avait séjourné autrefois. Alors, dans un premier temps, Élie est secouru dans son découragement très concrètement, grâce à la nourriture et à la boisson qui lui redonne des forces physiques, suffisantes pour marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au pied du mont Horeb. Alors, peut-être qu'en temps réel, il faut moins de temps pour aller au mont Horeb, mais on sait que les 40 jours, chiffre symbolique si cher au Premier Testament, sont là pour indiquer qu'il faut du temps pour se relier à la dimension intérieure que nous nommons Dieu. Et dans un second temps, Dieu invite Élie à se tenir devant lui et Dieu va se manifester à Élie. Pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Pourtant, la colonne de feu, l'ouragan, le tremblement de terre sont cités. Mais il nous est dit que l'Éternel ne se trouve pas cette fois-ci dans une manifestation de force. Contre toute attente, l'Éternel est présent dans un souffle ténu à l'opposé de ce qui s'est passé sur le mont Carmel. L'expression qui est employée dans le texte hébreu pour désigner cette manifestation particulière de Dieu est très difficile à traduire. Et voici pêle-mêle les traductions que nous pouvons trouver. Brise légère, dans la Bible de Jérusalem. Le son d'une brise légère, dans la Pléiade. Le son doux et subtil, dans la traduction Second. Un silence subtil, selon Chouraki. Léger souffle, dans le français courant. Souffle ténu. Murmure ténu d'une brise légère. C'est Emmanuel Lévinas qui donnera une traduction qui reste pour moi la référence. Une voix de fin silence. C'est de cette manière-là, me semble-t-il, qu'on peut rendre la contradiction contenue dans le texte hébreu. D'ailleurs, il nous arrive de dire parfois « on entend le silence ». C'est peut-être exactement là que le Seigneur passe devant nous. Peut-être avez-vous ressenti un souffle léger sur le bras ou sur la joue le soir, la nuit, alors que rien ne bouge. Ce souffle tellement léger, imperceptible, procure une infinie douceur. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de cette présence de Dieu à cet instant précis. Silence, souffle presque superficiel et léger. C'est avant tout la caractéristique d'un Dieu tout à fait inattendu qui se révèle être là où nous ne pensons pas un instant qu'il puisse être là. Et c'est la prise de conscience intérieure d'une présence invisible. Maintenant que nous le savons, c'est à nous de ne pas l'oublier et de le transmettre à chacun, chacune, en particulier qui nous demande en pleine tourmente, mais où est Dieu ? Où donc est-il ce Dieu ? Où donc est-il ton Dieu ? Et il nous faut faire un véritable silence en nous pour percevoir l'infiniment léger et le recevoir comme la présence de Dieu au milieu de nous, en nous. Cet infiniment léger ressemble à quelque chose d'une faiblesse extrême, vécue par tant de personnes qui souffrent de maladies ou de maltraitance, ou qui subissent la torture physique ou morale, qui subissent une emprise, qui sont à bout de force, totalement épuisées, qu'elles en perdent de leur propre souffle. Et c'est là que la présence de Dieu peut se manifester. On ne le voit pas, on la sent à peine, mais elle est là quand même. Sous une forme de totale impuissance, dans un total abandon à celui qui nous ouvrira les bras sur la croix, lieu suprême de la fragilité et de la vulnérabilité humaine. Et certaines personnes reçoivent l'assurance intérieure qu'elles ne sont pas abandonnées. Elles reçoivent une force insoupçonnée si la mort ne les emporte pas avant pour lutter, tenir et même parfois vaincre. Nous aussi, nous sommes invités à le croire envers et contre toutes les formes du mal et du malheur. Ne pas céder à la tentation de croire, ni même de penser que Dieu reste sourd aux appels de détresse. Croire, croire obstinément que malgré le silence apparent, malgré l'absence apparente, il y a ce bruissement imperceptible d'une présence invisible. Une façon de nous rappeler que l'amour est là, à portée de notre cœur, à portée de notre espérance. Si nous le croyons, alors nous le transmettrons à celles et ceux qui en ont besoin et qui réclament inlassablement notre soutien. Mais en quoi, me direz-vous, est-ce important pour notre rencontre d'aujourd'hui? En particulier en ce jour d'Assemblée générale et d'éducation biblique. La réponse se fera en plusieurs étapes. Les enfants et les jeunes poursuivront leur découverte tout à l'heure avec leur monitrice dans leur groupe. Mais pour celles et ceux qui resteront à l'Assemblée générale, ils pourront être attentifs au fait que dans l'Église en général et dans la paroisse en particulier, l'Évangile ressemble le plus souvent à une voix de fin silence. Il est présent dans tout ce que vous ne verrez ni dans le rapport moral, ni dans le rapport financier, qui ne sont au fond que la partie visible de la vie paroissiale. L'Évangile est annoncé et partagé lors d'un entretien pastoral ou des entretiens pastoraux pour préparer des obsèques le plus souvent difficiles à supporter. Quand très peu de mots sont échangés, quand la douleur est trop vive ou l'émotion trop forte, il faut comprendre alors à demi-mot, deviner une prière, sentir une musique. Et dans ces larges minutes de silence se révèle alors une présence invisible. Quand la colère gronde, quand la mauvaise humeur, pour ne pas dire la mauvaise foi, fait rage, quand on ne se comprend plus et que la mission est perdue de vue, l'Évangile est une voix de fin silence, quand la crise est désamorcée, quand le dialogue rompu peut reprendre, quand des injustices ou des dysfonctionnements dénoncés patiemment sont réparés concrètement. L'Évangile est un souffle ténu au chevet d'un malade, fragile à la porte d'une prison, imperceptible lors d'une visite. L'Évangile est encore une voix de fin silence qui devient source de discernement pour le rythme à trouver pour une célébration la plus juste possible afin que chaque personne, mais aussi chaque parcours, chaque rencontre, chaque sensibilité soit respectée et accompagnée. Et bien souvent, l'Évangile est là dans le souffle retenu ou l'inspiration profonde, celle qui permet d'inventer une nouvelle manière de dire ou de célébrer avec des gestes nouveaux. Au fond, le prophète Élie, devant sa caverne, fait l'expérience de sa quête de Dieu, qui, pendant un moment, s'est transformé en recherche de la perfection, mais qui l'a fait aboutir à un découragement profond. Ce texte est là peut-être aujourd'hui pour nous dire qu'il faut d'urgence abandonner cette quête de la toute-puissance de Dieu qui mine la foi et l'existence des êtres humains. Parce que c'est une course vouée à l'échec. Elle nous conduit à l'insatisfaction, à la dureté, à l'amertume, voire à la dépression. La vie nous enseigne qu'il n'y a pas de religion ou de foi parfaite. Et une Église qui croit réaliser les idéaux qui l'animent devient prétentieuse et sectaire, comme l'écrivait Raphaël Picon dans un éditorial d'Évangile et Liberté. Et il continuait ainsi, une religion idéalisée, fermée à la critique et pour qui la rencontre avec autrui n'est que bavardage stérile, devient morte. Alors, il est urgent de transformer cette toute-puissance en une toute-présence de Dieu, perceptible le plus souvent dans la voix de fin silence qui nous oblige à nous taire, pour nous rendre totalement disponibles aux autres et à nous-mêmes, qui nous libère aussi de toute illusion, en nous souvenant qu'en Dieu, tout est grâce, mais aussi générosité, bienveillance et même pardon. Révélé au mont Horeb pour Élie, incarné plus tard en Jésus le Christ, Dieu est une force d'approbation qui nous permet de nous accepter tels que nous sommes, tout en nous reconduisant au cœur du monde tel qu'il est, comme ce fut le cas pour Élie. Et notre mission sera de transformer avec passion ce qui peut l'être, tout en acceptant avec sagesse ce qui ne peut pas être changé. Amen. Merci à David Cassan qui nous accompagne ce matin pour ce culte. Et je pense que vous aurez reconnu le thème principal du cantique 392 que je vais vous inviter à chanter et qui s'intitule « Chaque jour de ma vie ». Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Je vous invite à vous lever. Place. C'est le moment de partager quelques annonces et je laisse la parole à Aurore Saglio-Thébault, présidente du Conseil presbytéral.
Merci Agnès. Je crois que vous l'avez compris. Bonjour à tous, tout d'abord. C'est jour d'Assemblée Générale. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus, même si vous n'êtes pas membre électeur. Et nous avons même, pour ceux qui reçoivent la lettre de nouvelles, qui est diffusée à plus de 2000 personnes, nous avons même diffusé l'intégralité du dossier de l'Assemblée Générale. Donc, si vous voulez la suivre en la regardant en même temps sur votre mobile, vous pouvez le faire, puisque nous avons vraiment diffusé toutes nos informations. Donc ça sera juste après le culte. Et après l'Assemblée Générale, nous aurons un verre de l'amitié, préparé par nos amis de l'entraide, et nous partagerons donc un verre. Donc nous allons essayer de, à la fois d'être rapide et complet, et en respectant le fin silence. Vous verrez, nous avons changé le format aussi aujourd'hui. Quelques nouvelles. Nous sommes la semaine de l'Ascension, donc d'ores et déjà jeudi, culte de l'Ascension avec Agnès. Mm-hmm. Tu vas prêcher sur Jean 15, je 16. Crois. 16. Mm. Bon. Donc jeudi.
Il est bon pour vous que je m'en aille.
Voilà, on a fait exprès pour lancer des rumeurs. Agnès reste bien avec nous. On partira juste en vacances. À propos de vacances, nous vous voulons souhaiter d'excellentes vacances à Meux et Gérard, qui partent le week-end prochain au Vietnam pour quasiment 5 semaines. Donc, vraiment, excellentes vacances à vous. À noter également, mercredi, alors nous avons 2 partages œcuméniques avec Saint-Eustache. Oui. Le premier, le classique, à Saint-Eustache avec Agnès Adeline Schaeffer et le Père Trochéry sur le thème d'Ézéchiel, hein, c'est ce que vous étudiez cette année. Oui. Et également, Béatrice Cléromazir avec le prêtre Jacques Mérienne, également de Saint-Eustache, et un rabbin, a priori libéral, nous ne le connaissons pas, seront à la mairie de Paris-Centre sur le thème de l'engagement religieux et la LGBT-phobie, l'homophobie, au sens large du terme, parce que mercredi est la journée internationale de lutte contre tout ce qui est homophobie, LGBT-phobie. Voilà, donc le maire de Paris-Centre a demandé à un pasteur, un prêtre et à un rabbin de venir parler de ce sujet mercredi. Donc deux initiatives œcuméniques avec Saint-Eustache. Et dimanche prochain, là pour le coup, nous la connaissons, nous avons la rabbin Madame Pauline Beb qui viendra en chaire dimanche prochain. Voilà. Le reste, vous le trouvez dans nos newsletters que nous envoyons tous les vendredis et également sur notre site. C'est le moment de l'offrande. On en parlera tout à l'heure. L'année dernière, je crois qu'il fallait 1046 euros par jour pour faire vivre l'oratoire et également la région, financer d'autres pasteurs, puisque nous finançons plus de 5 pasteurs dans la région, y compris nos deux. Cette année, je crois que le chiffre exact est de 986 euros par jour. Ça n'est possible que grâce à vous, et nous donc vous remercions infiniment pour votre soutien, puisque c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à avoir cette parole qui libère. Merci à tous et bon dimanche.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, rassemblés en toi, divers comme nous le sommes, nous t'adressons notre prière. Merci pour ton amour qui nous a appelés avant même que nous le sachions et qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ta parole qui n'en finit pas de nous surprendre et qui n'en finit pas surtout de nous rejoindre au cœur de notre vie, telle une voix de fin silence. Nous te prions pour chacun et chacune de nous présents ou absents. Guide-nous dans notre vocation. Montre-nous la route à suivre et donne-nous la force qui nous manque lorsque nous hésitons. Nous te prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui, quelle qu'en soit la raison. Bénis-les là où ils sont et dans ce qu'ils font. Éternel Dieu de la vie, nous te prions pour l'Église universelle à travers le monde. Rappelle-nous qu'aucune dénomination ne peut prétendre délimiter l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rappelle-nous que nous sommes appelés sans cesse à travailler ensemble et dans l'amour réciproque à l'annonce de l'Évangile. Nous te prions pour la paix dans notre monde, mais en particulier, rends-nous persévérants là où nous sommes, à travailler nous aussi pour la paix. Et ensemble, nous te disons d'une même voix la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.